Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Bienvenue à tous, salut Judith.
Heureuse de vous retrouver, salut Olivier.
Sur Sud Radio, comme chaque semaine.
C'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
C'est l'histoire de leur passion.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils font le pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur histoire.
C'est excellent et on le prouve. Caroline Loeb et Pierre-Olivier Brial sont aujourd'hui nos invités. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pierre-Olivier Brial, vous êtes à la tête de Manutan International depuis 18 ans. Alors Manutan International, c'est une grosse boîte de la région parisienne. À Garges-lès-Gonesse, exactement. Un des leaders européens de la distribution B2B qui équipe les entreprises, les collectivités, les artisans, enfin tout le monde si on peut dire, hein, en fourniture et équipement de bureaux.
Et ce qui vous distingue de beaucoup d'autres, c'est ce que vous avez développé au sein de votre siège social, qui est aussi votre vitrine. Ce siège, vous l'avez nommé Dreda. Dreda pour des racines et des ailes. Ça ne manque pas d'air ni d'allure, et je vais vous dire, ça nous intrigue.
La Dreda, c'est un des premiers sites en France à avoir reçu la certification HQE. Oh là là, on va y arriver. HQE, je suis fatiguée aujourd'hui. Pour haute qualité environnementale, vous faites du traitement naturel et de la récupération d'eau de pluie, de la surisolation de vos espaces et vous optimisez les éclairages.
Vous avez même monté une université pour vos employés qui travaillent sur le rapport que chacun entretient avec soi-même, les autres et puis évidemment le client. Il y a également une crèche bio, en outre, on a beaucoup de choses à se dire.
Caroline Loeb, certains vous résument à la Watt, qui a fait la douceur de nos années 80. Vous avez pourtant eu une vie avant et une vie depuis, à chaque fois passionnante. Vous avez eu l'idée d'un seul en scène fascinant autour de Françoise Sagan. On vous a vu sur, il y a quelque temps, la scène des Folies Bergères dans l'excellent Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, un copain du Palace, de l'époque Palace.
Et puis vous vous êtes dit, chiche que je suis cap de raconter qui je suis vraiment. Alors des années Palace, Fabrice Aymer, jusqu'à nos jours moins riants, il faut bien le dire, chiche, c'est le nouveau spectacle que vous proposez depuis quelques jours au Théâtre de l'Archipel à Paris.
Et d'ailleurs, on y apprend que Kenzo fut l'un des premiers à vous faire travailler. On prend le temps de vous découvrir enfin, on vous entend chanter, ça nous avait manqué d'ailleurs.
C'est gentil.
Et c'est-à-dire si on est content de vous accueillir aujourd'hui quand même.
Hein. Yeah, moi aussi je suis content d'être là.
Caroline Loeb, Pierre-Olivier Brial, vous recevoir est un plaisir, vous écoutez. Ça annonce passionnant.
C'est excellent et ça commence maintenant.
Caroline Loeb, je pense personnellement, je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, que vous êtes un roman à vous toute seule. Un jour, vous prendrez le temps de l'écrire et ce sera forcément un beau livre. En attendant, c'est déjà un très beau spectacle. Chiche, c'est son titre.
Chiche, que je suis cap. C'est ce que vous vous êtes dit en montant l'autre soir sur la scène du Théâtre de l'Archipel ?
Oui, de toute façon, c'est un spectacle dont j'ai envie depuis très longtemps. Parce que j'adore le cabaret, j'adore le musical. Et le spectacle Françoise Sagan, que je continue à tourner, qui a été nommé au Molière en 2018, qui est un spectacle que j'adore, parce que les interviews de Sagan, c'est une espèce de merveille, d'intelligence, bon, etc. Mais c'est un spectacle, mis en scène par Alex Lutz, extrêmement rigoureux, extrêmement précis, où vraiment tout est au cordeau. Donc c'est un vrai bonheur de faire ça, mais là j'avais envie de liberté, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de pouvoir interpeller les gens dans la salle, de vanner, de déconner. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec mes trois musiciens que j'adore absolument, qui m'accompagnent sur scène, on s'amuse comme des fous. Voilà, donc je retrouve une forme qui me fait beaucoup de bien. Et c'est... Le cabaret, c'est génial.
Mais oui, parce que là vous pouvez vous exprimer. On vous sait fantasque, on vous sait explosive, espiègle aussi.
Je fais l'andouille, on peut le dire.
Ouais, voilà. Autrement dit.
Dans une robe absolument sublime, diriez. Donc voilà, je suis habillée un peu à la gréco et à l'intérieur, c'est bout de funèbre. Donc, mais pas que, évidemment. Mais c'est vrai que oui, j'avais envie de cette liberté, de cette fantaisie, de cette folie.
C'est ça que vous aviez envie de nous faire vivre ou revivre peut-être, justement, cette liberté, cette fantaisie qu'on a perdue un petit peu aujourd'hui ou qui s'est émaciée avec le temps.
Vous parlez de la vôtre ? Non, mais la liberté, de toute façon, c'est toujours de haute lutte hein, qu'on l'acquiert. Les femmes auxquelles je me suis intéressée, que ce soit Georges Sand ou Sagan ou d'autres, Joséphine Baker, Marlène, enfin, il y en a plein. C'est toujours des combats.
Des grandes personnalités.
C'est des combats contre soi-même, contre les carcans familiaux, contre les préjugés, contre une époque, contre le regard masculin, contre beaucoup de choses. Donc la liberté, c'est une espèce de combat quotidien.
Donc on parle de liberté féminine, en fait. fait, hein, vraiment.
Oui, mais c'est dur pour les mecs aussi.
Oui, c'est
encore
vrai.
Un peu plus dur quand on est une femme. C'est un peu plus compliqué quand on est une femme parce qu'on c'est vrai qu'on est très réduit par certains regards. Faut être jeune, faut avoir un certain tour de poitrine, faut être ci, faut être ça. Enfin, plein de trucs totalement inintéressants et grotesques. Parce que et c'est ça qui est aussi magique au théâtre, c'est qu'on peut avoir absolument n'importe quel âge et tout passe avec les lumières, tout passe avec l'énergie.
Vous cherchez le compliment, vous voulez que je vous dise que vous êtes belle sur scène, Caroline Loeb?
Ben oui, je veux bien.
Ben ça y est, je le dis. Allez, un petit extrait justement en chiche en ce moment au Théâtre de l'Archipel à Paris.
Tout est toxique et je boxe contre la panique et ta critique.
Caché sous mon masque, de phrases et de phrases, c'est à la renverse que la vie me traverse.
Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis. Et l'automne en sourit. À Toulon s'écorche, au sublime et au moche, à l'ici ou l'ailleurs, toujours les mêmes encoches. Est-ce la peau bien trop fine ou le cœur bien trop proche?
Ah, j'aime beaucoup. Et encore, on a fait court. Hein. Ouais. On passe par toutes les couleurs de l'émotion avec vous, Caroline Loeb. Hein.
Oui, c'est un ascenseur émotionnel, c'est vrai. Ouais. Je raconte des trucs un peu trash sur les années 80. Et puis, juste après, il y a justement, par exemple, cette chanson « À Toulon s'écorche ». J'avais vraiment envie de ça. J'avais envie que ça soit, que ça aille très fort dans la déconnade et dans des trucs un peu rudes aussi. Et puis, très fort dans l'émotion. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Et comme je fais aussi de la mise en scène, je sais que quand les gens ont ri, ils sont ouverts et là tu leur balances un truc qui les casse en deux. Non, mais voilà, c'est vrai que pour moi, ça correspond aussi à mon idée du spectacle et de la vie. C'est-à-dire que dans la même journée, dans la même heure, on peut passer d'une grande colère à une grande tristesse, à une joie. Voilà, on n'est pas une chose. On n'est pas... dans la même journée, on est plein de personnes différentes et plein d'émotions différentes. Et je trouve que, pour moi, les spectacles noirs sont vraiment forts si on y rit et les spectacles vraiment drôles sont forts s'il y a des moments où on est un peu terrifié, comme dans les spectacles de Zouk, qui était un génie comique absolu. Il y avait des moments, je me souviens quand je l'avais vu à Bobino, une fois je me suis dit mais il y a quelqu'un qui va se lever et hurler, tellement c'était violent. Et en même temps, on pleurait de rire. Donc pour moi, c'est très important que toutes les émotions soient présentes dans la même forme.
Restez avec nous, Caroline, on va y revenir.
Je vais me gêner.
Parce qu'en plus, j'espère bien que vous n'allez pas vous gêner. De toute façon, ce n'est pas votre genre.
Non.
D'ailleurs, autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle de Marine de Quéchassin, qui a fondé il y a 2 ans Accentia, en ayant l'idée de se servir de la climatisation d'été pour se chauffer l'hiver. C'est ingénieux, Olivier.
Ah, c'est drôlement malin. C'est la Made in French Tech.
Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech.
Notre maison brûle, raison de plus pour ne pas regarder ailleurs. À lui seul, le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports, 31,3%, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire. Chaque année, ce secteur émet plus de 123 millions de tonnes de CO2.
Alors c'est énorme. Alors c'est sur ce constat que s'est créé Accentia, donc en 2017. Cette start-up propose, on l'a découvert, un ensemble de solutions totalement innovantes qui combinent le stockage intersaisonnier de la chaleur et les algorithmes, c'est un peu compliqué, mais pour réduire les consommations énergétiques et les émissions justement de CO2 du bâtiment.
Vous êtes très technique, Olivier.
Oui, c'est vrai, je le reconnais.
Pour faire simple, Accentia utilise les énergies renouvelables produites en grande quantité l'été pour chauffer les bâtiments l'hiver. En valorisant par exemple la chaleur solaire ou la chaleur récupérée des systèmes de climatisation, elle permet donc de chauffer l'hiver.
Ah, c'est vrai qu'on comprend mieux quand vous le dites. Même moi, je comprends mieux. Accentia utilise en outre les prévisions de température qui sont précises, hein, de 1 à 1,25°, c'est vous dire la précision, à 24 heures et de 3° à 7 jours.
Concrètement.
Ah bah alors, comme vous êtes, hein, vous voulez toujours voir concret. Vous êtes une fille. Concrètement, il sera possible de chauffer le bâtiment avant même que les températures baissent et éviter tout recours au réseau carboné nécessaire en cas de pic.
Génial.
C'est vachement bien. La machine learning ensuite apprend toute seule et elle est utilisée pour gérer le stockage justement intersaisonnier thermique dans le sol. Technologie aujourd'hui connue, utilisée, relativement bien maîtrisée. Il est donc possible de connaître la réalité de la performance de ce stockage pour l'améliorer. Ça, c'est drôlement innovant.
Vous avez des preuves, Olivier?
Oui, j'en ai. Attendez, je les cherche. Accentia se targue de pouvoir baisser la consommation énergétique d'un bâtiment de 60% et de 80% pour les émissions de CO2. Et si vous voulez tout savoir, Airbus et Vinci ont déjà adopté leur modèle.
Il y a du boulot. Hein. Selon le cabinet EcoAct, en septembre dernier, 82% des entreprises du CAC 40 n'avaient pas de stratégie de neutralité carbone.
Et on comprend mieux.
Salaud.
Et on comprend mieux qu'Accentia ait levé il y a quelques jours 4 700 000 euros pour continuer à se développer.
Accentia, qui est basée sur le cluster de Paris-Saclay et dont la fondatrice, j'aime à le rappeler, est une femme et toc.
Ouais, Dominique Doquet-Jacin. Yeah. Oui, je sais.
Ouais, c'est excellent. On revient dans un instant avec Pierre-Olivier Brial.
Un homme.
Oui, ouais, bon, désolé. Ça va, je sais.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur passion. Caroline Loeb, tout sourire, Pierre-Olivier Brial, tout sourire aussi, sont venus aujourd'hui nous raconter leur histoire.
Pierre-Olivier Brial, vous êtes directeur général délégué de Manutan International avec Xavier Guichard, qui est le petit-fils des fondateurs. Vous distribuez des équipements de bureaux à une grande partie des professionnels européens. Dès sa création en 1966 par André et Jean-Pierre Guichard, Manutan affirme une volonté d'expansion européenne. Très clair. On peut parler de vision. Et vous êtes à combien de pays aujourd'hui, s'il vous plaît ?
17, si ma mémoire est bonne.
D'accord. Et c'est vraiment une vision dès le départ, une volonté du début de...
Oui, parce que l'entreprise est allée en 74, alors qu'elle a été créée en 66 en Angleterre, ce qui était, pour l'époque, assez innovant pour une PME française. Donc oui, ça a été une vision européenne dès le départ.
D'accord. Et l'idée, c'était vraiment de développer tout de suite, dès le départ, une installation globale qui permette justement d'avoir une vision de ce qui se passe en intégralité sur le continent, en fait. C'est quoi l'idée ?
En fait, alors ça peut paraître maintenant un peu daté, mais Manutan était la première entreprise en vendant par catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'univers business to business, on ne vendait pas par catalogue pour une simple raison, c'est qu'on n'affichait pas les prix.
D'accord.
Et donc le modèle était très innovant pour l'époque. Alors il y avait eu toute la vague des monoprix, prix unique, hein, puisque ça, ça a été l'affichage des prix pour le grand public. Et ensuite dans les entreprises, c'est arrivé dans les années 60. Et comme le modèle était innovant, il y avait aussi une volonté d'aller assez vite dans les nouveaux pays pour être le premier en fait à vendre par catalogue.
D'ailleurs, le tournant digital, vous êtes un des premiers aussi, hein, 2001, c'est ça ?
Ouais, 2001 en fait, on est passé sur Internet.
D'accord, donc vous parlez de e-commerce avant que ça existe en fait.
Ouais, tout début, vraiment, tout début de l'e-commerce. Ouais.
Ah, vous êtes pionnier. Hein.
Ouais, ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise parce que comme elle s'est montée finalement sur une innovation, c'est toujours quelque chose qui a continué dans l'entreprise. Ouais.
Pour bien comprendre, Pierre-Olivier Brial, quand on dit fourniture de bureau, moi j'ai regardé, c'est pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, qui sont en clients potentiels, je vous le souhaite en tout cas, il y a beaucoup de monde à l'écoute de Sud Radio. Hein. C'est un inventaire à la Prévert, c'est incroyable ce que vous...
Oui, c'est un inventaire à la Prévert. Alors, en fait, les fournitures de bureau, pour le coup, c'est une toute petite partie. C'est-à-dire qu'on est né dans l'entrepôt, d'où le nom Manutention. Et ensuite, on s'est développé donc sur beaucoup de familles. Et en fait, aujourd'hui, notre proposition de valeur, on va dire, c'est de dire à une entreprise, vous pouvez regrouper tout un certain nombre d'achats au même endroit. Mmh. Alors, on travaille beaucoup pour les écoles et pour les municipalités.
Pour le public aussi,
oui, énormément. Ça, ouais. Donc, on offre en fait en un seul endroit toute une gamme de produits qui vont équiper ce studio.
Voilà, c'est ça, table, bureau, chaise.
Ouais, table, chaise, bureau.
Et vous faites la technique aussi ? Tout ce qui est technique, je sais pas, les lumières.
Ouais, tout ce qui est technique. On va faire beaucoup de rayonnage, protéger les bâtiments, sécuriser du sel quand il neige.
Vous faites du clé en main aussi, j'ai vu.
On fait pas mal de personnalisation, du design pour des salles de mobilier, pour des salles de rayonnage, etc. Donc c'est très très vaste. En fait, on est à la fois une grande plateforme internet où on vend des produits à tout le monde. Et ensuite, on a des services autour, donc des gros projets. Et puis, on aide les grandes entreprises vraiment dans leur stratégie d'achat.
Et vous travaillez vraiment main dans la main avec des architectes, on suppose, du coup, aussi ?
Oui, alors on a des architectes, mais enfin, on reste sur quand même des choses assez simples. Hein. On n'est pas sur des équipements de sièges sociaux, etc. Mais on fait avec des designers, oui.
Vous travaillez avec les théâtres ?
On travaille avec les théâtres, oui, tout à fait. Et on travaille avec les théâtres.
Vous faites quoi pour les théâtres ?
Les théâtres, on va faire tout ce qui va vous servir à stocker, la manipulation, les chariots... Voilà, les coupe-fils.
Ah oui, aussi, mais oui, bien sûr.
Il faut balayer, il faut ranger. En fait, on est beaucoup, dans les arrières cours et des théâtres, ouais, dans le backstage. Voilà.
Ouais, c'est ça.
On est les rois du backstage.
Pierre-Olivier Brial, vous avez donné un nom à votre siège, Dreda. Dreda, ouais. Pour des racines et des ailes. Pourquoi ça ?
Parce qu'en fait, le projet qui a été construit, ce site, c'était beaucoup plus qu'un nouveau site d'entreprise. C'était vraiment une nouvelle aventure pour Manutan. Et donc, on voulait vraiment à la fois s'inscrire dans la tradition de ce qu'était l'entreprise, donc les racines, mais aussi donner à l'entreprise et à ses collaborateurs des ailes pour se lancer. Donc, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, c'était le nom de code du projet. Ce n'était pas le nom du site. Parce qu'en fait, comme on est étranger, on est beaucoup à l'étranger, ça ne disait rien aux Anglais, etc. Ouais. Quand on s'est installé, on a dit, bon, alors, quel nom on va lui donner ? Et puis les étrangers, ils ont dit « Ah non, mais Dreda, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça nous plaît, donc on a gardé Dreda ».
Et ils voilà. disent Dreda. Maintenant.
Dreda, voilà.
Mais ils savent ce que ça veut dire.
Ouais, ils savent ce que ça veut dire. Alors, from roots to wing, mais bon. N'arrête pas de leur dire, mais je suis pas sûr qu'ils retiennent.
Pierre-Olivier Brial, vous êtes directeur général délégué de Manutan International. C'est un gros groupe, c'est une grosse boîte. On a envie de savoir, être un grand patron aujourd'hui, c'est créer un environnement pour ses employés, c'est prendre soin de son humanité, de ses employés, etc. Ça va avec aujourd'hui, c'est très important.
Ouais, en fait, aujourd'hui, bon, toute entreprise va vous dire le monde change, il faut s'adapter, etc. Alors c'est vrai que comme toutes les entreprises et nous, dans le stand de la distribution, on est beaucoup chahutés par le digital. En fait, la vraie difficulté quand on dirige une entreprise, finalement, c'est pas tant de savoir où on veut aller. Bon, parce que de toute façon, il y a toujours quelques mouvements à faire, etc. C'est beaucoup de se dire comment on amène, en l'occurrence 2300 collaborateurs, à évoluer. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'intelligence artificielle, tout le monde vous dit il y a des métiers qui vont disparaître, il y aura moins d'emplois. En réalité, on voit que chaque fois, d'autres se créent. Mais ça, c'est vrai au niveau collectif. Après, quand on redescend à l'individu, la vraie question, c'est moi, individu. On m'explique que je vais pouvoir prendre des nouveaux métiers demain, que je vais être remplacé par une partie de mon activité, que je vais faire des choses plus intéressantes, mais est-ce que je peux le faire ? Et en fait, c'est ça la vraie difficulté. Et quand on crée une entreprise de zéro, souvent, on s'entoure de collaborateurs qui sont dans le mouvement, etc. Quand on transforme des entreprises, la question, c'est comment on amène l'individu à être mobile pour créer de la mobilité collective. C'est à la fois le plus passionnant et en réalité le plus difficile. Beaucoup plus que de définir une stratégie.
Mais cette université, cette crèche bio, c'est pas de l'affichage. On le sent bien, c'est où il y a des valeurs très enracinées, pour reprendre votre expression. L'humanisation du temps passé au travail, c'est en ce sens que vous vous êtes engagé. C'est compatible avec l'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple ?
Est-ce qu'elle y joue ? Enfin, est-ce qu'elle y contribue, on va dire ?
Alors, est-ce qu'elle y contribue ? Alors oui, mais... Juste pour revenir, en fait, la question, donc l'augmentation du chiffre d'affaires, une entreprise, elle augmente son chiffre d'affaires quand elle crée une différenciation, c'est-à-dire qu'elle donne une bonne raison à un client de venir là plutôt qu'ailleurs. Et ça, c'est d'année en année, parce qu'on peut être différent une année, puis petit à petit, ce qui fait la différence. Il n'y a pas de différence d'entreprise et d'évolution s'il n'y a pas une évolution des collaborateurs. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que sinon, le système se bloque. Donc la vraie question, c'est comment les collaborateurs évoluent. Nous, on est assez convaincus que la réponse, elle est assez individuelle, et donc on a voulu donner, si vous voulez, un portefeuille de possibilités. Donc, on peut rentrer par le sport, on peut rentrer par le théâtre, parce que, finalement, je reprends confiance dans ma capacité à évoluer. Parce que certaines personnes n'ont pas été éduquées dans le fait de dire « on peut évoluer », etc. Alors après, on a des choses un peu plus classiques pour les managers, etc. Et donc, en réalité, il ne faut pas du tout voir ces outils comme des outils juste de bien-être. Quand on a un gymnase, nous on a un gymnase, sport d'entreprise, ce n'est pas du tout pour donner des avantages en nature et pas payer une salle de sport. C'est un outil au développement des collaborateurs. Et donc, pour nous, c'est très important, c'est un contrat. C'est-à-dire que nous, chef d'entreprise, on peut donner des moyens de se développer. On peut investir là-dedans. Mais après, on est face à un marché et donc on peut pas garantir à vie à quelqu'un, non, tu feras la même chose. En quoi je pense que c'est plus le contraire, c'est-à-dire tu vas évoluer, on va donner des moyens et après, il y a une responsabilité individuelle. Et nous, on tient beaucoup à cette rencontre d'une volonté collective, de dirigeants et d'une responsabilité individuelle, d'une dignité individuelle, de dire « Ok, je vais me mettre en mouvement. »
Du coup, on peut allier valeur et performance. Je vous cite, vous dites souvent « Entreprendre pour un monde meilleur ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
En fait, c'est intéressant parce que la question, c'est qu'est-ce que la performance ? Et aujourd'hui, on oppose souvent, on va dire, une entreprise, une performance, c'est son chiffre d'affaires, son résultat. Un acteur, une performance, on y reviendra peut-être, hein, parce qu'on parle de performance
bien sûr,
d'acteur.
Bien sûr.
Nous, on pense que la performance aujourd'hui, elle se traduit par la capacité qu'on a à réunir toutes les parties prenantes. Donc, par exemple, chez Manutan, on pilote l'entreprise sur 5 indicateurs, chiffre d'affaires, résultat, la satisfaction client, collaborateur et fournisseur. Et on estime qu'on a réussi notre projet si non seulement on se développe en chiffre d'affaires, résultat. Alors, pour être clair, le résultat, c'est comme l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas votre objectif tous les jours, mais globalement, sans air, on meurt. Donc, on ne vit pas pour respirer, mais une entreprise, il se trouve qu'elle est, c'est un véhicule qui a besoin d'argent,
voilà. Bien sûr.
Et puis elle a besoin d'avoir des actionnaires aujourd'hui qui lui font confiance, etc. Mais ça peut pas être la seule mesure de la performance. Et nous, on considère que la performance, ça doit être le fait que l'ensemble du système, parce que Manutan est là, est un peu meilleur à notre petit niveau, hein, à notre petit niveau. D'où, alors on l'a traduit comme ça, entreprendre pour un monde meilleur, c'est de se dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, essayons que ça profite à tout le monde, avec toutes les contradictions que ça comporte, la difficulté. Mais c'est un peu ce qui nous mobilise aujourd'hui.
C'est un peu aussi traiter les gens qui travaillent pour vous comme des sujets, pas comme des objets.
Exactement.
C'est ça qui fait une grosse différence.
Exactement. Quand j'entends Pierre-Olivier Brial, je me dis qu'on est très très loin quand même de la triste époque d'Orange dirigée par Bompard. C'est un autre débat. Vous restez avec nous tous les deux, hein, Pierre-Olivier Brial, Caroline Loeb. Tout de suite, Valérie Solvy, vous ne la connaissez pas encore, nous rejoint.
Sud Radio, c'est toujours excellent et c'est l'art et la manière. Valérie Solvy crée le cadre pour mieux en sortir.
Sud Radio, c'est excellent, l'art et la matière.
Je vais vous parler d'un sujet qui pourrait vous paraître militaire, le cadre. Eh bien, il n'en est rien. La vie sans cadre et sans encadrement, ce n'est pas possible. Que ce soit dans une salle de classe à l'école, un joli dessin d'enfant, que ce soit dans une maison de famille avec une photo de ses grands-parents, que ce soit chez soi, dans un salon ou dans une salle de bain, avec le tableau d'un peintre du dimanche, que ce soit un amateur, un connaisseur, un antiquaire ou galériste avec une peinture de maître, le cadre, il faut le cadre. Dans la vie, le cadre aide à la liberté. De la contrainte naît la grâce, dit la célèbre formule. Du cadre naît la liberté, c'est vrai pour les enfants. Comment grandir bien et libre et devenir bel être humain, sans cadre et sans encadrement? Pour un tableau, c'est encore plus vrai. De la contrainte et des limites d'un cadre bien choisi naît une beauté que la toile seule n'avait pas exprimée, mettre en valeur et encadrer les dessins et les tableaux. Oui, c'est un métier. C'est un métier manuel et merveilleux qui demande de la patience et de l'apprentissage, pour lequel il faut quelques instruments. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de place. On peut le faire de chez soi, ou dans une petite échoppe, ou dans un grand atelier. On peut le faire seul ou à plusieurs, à partir de matériaux de récupération écologiques et responsables. On peut le faire pour le plaisir ou à plein temps. On peut prendre des cours pour apprendre à le faire ou être intuitivement doué. Encadreur, c'est donc un métier précieux. Visitez l'atelier d'une encadreuse, par exemple, rue Rochechouart à Paris dans le 9e, ça vous convaincra. Un dessin abîmé, le restaurer, comment ? Elle fronce les sourcils, elle va réfléchir. Et quelques semaines plus tard, ou quelques jours, si tout d'un coup il y a un anniversaire, et là la magie opère, le savoir, quelle merveille. Elle a choisi un bois avec vous, peut-être une Marie-Louise, et oui, ce n'est pas qu'un prénom. Ce sont de ces savoir-faire dont il reste peu d'adresses à Paris et ailleurs en France. Et de ces adresses où on se donne comme des trésors, elles disparaissent petit à petit. Car à tous ces savoir-faire et à leurs échoppes, on ne leur veut pas forcément du bien. Les loyers sont chers, et quand un loyer est trop cher, l'échoppe et l'artisan ou l'artiste qui y œuvre ne peut pas durer. Et dans ce cas, ils mettent la clé sous la porte. Vous l'avez compris, cette chronique est aussi pour vous, messieurs les maires de France. Pour vous, messieurs de l'immobilier, comment protéger ce qui fait le charme de notre vie plutôt que d'avoir un cadre qui vient de l'autre bout du monde et qui n'y va en aucun cas à nos tableaux poétiques ou peut-être à aucune de nos photos intimes que l'on rêve de mettre à l'honneur.
Merci Valérie Solvy et à la semaine prochaine.
C'est excellent, revient dans un instant.
Caroline Loeb et Pierre-Olivier Brial sont nos invités.
Raison de plus pour revenir, Olivier.
Tout de suite même.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Vous écoutez Sud Radio et vous avez bien raison.
C'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
C'est l'histoire de leur passion. Caroline Loeb et Pierre-Olivier Brial sont aujourd'hui nos invités.
Moi, j'ai envie d'écouter Caroline. Hein.
Ah ouais, vous aussi ?
Ouais.
Ouais, moi aussi.
Allez.
Me voilà accro, c'est chimique, à ces substances despotiques qui n'ont rien d'homéopathique. Je suis en manque, c'est diabolique, mes nuits sont blanches, tyranniques. Au secours, un jour, c'est la panique. Schoolgirl droguée, tragicomique, pas très anonyme, la narcotique.
Ça vous plaît ?
J'adore.
Pierre-Olivier,
beaucoup.
Je suis fan.
C'est sympa, hein ?
Beaucoup, ouais.
Très sympa.
C'est un petit côté Gainsbourg que j'aime beaucoup.
Bah oui, mais moi j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'étais fan de Gainsbourg. Ouais.
Et puis vous avez travaillé avec Serge Gainsbourg.
J'ai travaillé voilà. Comme styliste pour Gainsbourg.
Absolument.
Pour un livre de photos avec bambou.
Yes. D'accord.
Ouais. Génial.
Elle a une vie, Caroline.
Oh là là.
Enfin, plusieurs émissions.
C'est que la première.
Caroline Loeb, cette chanson, vous la chantez en ce moment sur la scène du théâtre de l'Archipel à Paris avec ce nouveau spectacle, Chiche. Françoise Sagan qu'Alex Lutz a mis en scène est toujours d'actualité. Il y a des tubes qui sont de tels succès qu'ils enterrent leurs interprètes. Vous avez pensé un jour que tout pourrait s'arrêter à cette délicieuse chanson ouatée ?
Bah, disons que ça fait 30 ans que je
qu'on
fais tout pour pas qu'elle m'enterre. Mais c'est vrai que il y a eu quelques années où j'avais un peu un goût de terre dans la bouche. voilà. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'en même temps, les gens adorent cette chanson, l'ont adorée, c'est une partie de leur vie. Et moi aussi, comme public, il y a des chansons que, quand je les écoute, j'ai 14 ans, où ça me rappelle tel souvenir, quand j'étais à la plage, ou un mec que j'aimais, ou des... Enfin bon, voilà, les chansons, c'est quelque chose de très, très physique. Donc, je ne peux pas en vouloir aux gens de chaque fois me rappeler la chanson. Mais enfin, le truc, c'est juste que je ne suis pas morte, que je continue à faire des trucs, et qu'en plus, je fais des choses qui me passionnent et qui, pour moi, sont évidemment beaucoup plus intéressantes qu'une chanson de 3 minutes 30.
Bien sûr, bien sûr. Mais ceci dit, quand même, texte de Pierre Grillet, c'est une très belle complicité qui ne s'est pas démentie non plus, d'ailleurs, avec
Pierre. Alors j'étais vraiment particulièrement heureuse de retrouver Pierre Grillet sur le dernier album. On a coécrit deux chansons ensemble et on a retrouvé le plaisir incroyable qu'on avait à écrire ensemble. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est une espèce de partie de ping-pong intellectuel. C'est un vrai bonheur d'écrire à deux. Moi, j'aime beaucoup écrire à deux. Alors, après, avec chaque co-auteur, c'est différent. Avec Thierry Illouz, c'est par mail. Il m'envoie des bouts, je corrige. Hein. Avec Pierre Grillet, c'est vraiment autour d'un café où il y a 30 ans, on écrivait beaucoup dans sa voiture parce qu'il avait une voiture bureau. Et donc, on allait se garer n'importe où.
Équipé par Manutan International,
j'espère bien.
non, mais c'est vrai que avoir un objet comme ça autour duquel on peut avoir des joutes verbales et avoir les mots qui viennent comme ça, c'est que du bonheur.
Il y a quelque chose qui m'épate chez vous, Caroline, cette force,
oh, bien
non, mais en même temps, on est pour tout seul, si vous voulez. Donc
allez-y,
c'est pour ça. Vous l'appuisez où, cette force de créer, d'avancer, d'écrire, d'imaginer? Vous n'êtes jamais là où on vous attend. C'est de famille, ça?
On
est aussi artistes dans la famille, hein, littéraire.
Ouais, ma mère a toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle a toujours créé plein de choses.
Les éditions du Vanneau, c'est elle.
Elle a une petite galerie à Bordeaux qui existe toujours. Et donc, elle écrivait, elle peignait, elle faisait des patchwork. Elle a toujours fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'elle a une vitalité absolument débordante. Et voilà, elle m'a sans doute transmis ça. Et... c'est vrai que moi, depuis que je suis toute petite, je suis dingue de musique, d'opéra, d'Yvette Guilbert, de littérature. Pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose qui sauve la vie, qui permet de survivre face à quand même parfois des choses extrêmement violentes, ça peut être des choses extrêmement violentes familiales, où dans le monde, on est quand même confronté à de la souffrance, tous autant qu'on est, et la transformer avec la création, c'est vachement important. C'est aussi pour ça que je suis particulièrement sensible à quelqu'un comme Francis Bacon, dont il y a l'exposition en ce moment. Moi, ça me bouleverse complètement. Je le dis dans le spectacle, quand j'ai vu l'exposition, celle-là, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais quand j'ai vu celle qui était à 10 ou 20 ans, j'ai failli tomber à la renverse devant un des tableaux, tellement c'était puissant, tellement ça dégage d'humanité, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche physiquement.
C'est bien que vous parlez de la peinture, on parle rarement de votre grand-père, Pierre Loeb, qui était un galeriste renommé, qui avait des amitiés avec tous les peintres de son époque.
Avec André Breton.
Breton, Picasso aussi.
Pierre Loeb, ça a été un des très très grands marchands de l'entre-deux-guerres. Alors justement, j'étais la semaine dernière enfin découvrir l'exposition qu'il y a au Mémorial de la Shoah sur les marchands de tableaux pendant l'occupation. Mmh. Et c'est une exposition qui est extraordinairement bien faite. Et donc évidemment, il y a mon grand-père, parce qu'il a été obligé de fuir
à Cuba.
Ouais. C'est là qu'il a rencontré Wilfredo Lam, qui a été un très très grand peintre, qui a une exposition à Beaubourg il n'y a pas très longtemps. Et mon grand-père était très ami avec Picasso. Il a été dessiné par Giacometti. Enfin voilà, c'est tout un pan de l'art moderne.
Et par Antonin Artaud.
Et pardon ?
Il a été dessiné aussi par Antonin Artaud.
Ça, c'est de la signature. Hein.
Mon grand-père n'a pas été dessiné par Antonin Artaud, mais il était très proche d'Antonin Artaud. Et c'est grâce à mon grand-père qu'Antonin Artaud a écrit son fameux livre Van Gogh ou le suicidé de la société.
Yes.
Parce que, bon, bref, après, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires sur mon grand-père, mais j'engage vraiment les auditeurs à aller voir cette exposition au Mémorial de la Shoah. C'est bouleversant. Il y a évidemment le grand-père d'Anne Sinclair, Paul Rosenberg, il y a d'autres marchands, et il y a une salle moi qui m'a particulièrement touchée sur donc la spoliation des biens juifs. Il y a quelques objets qui sont posés, qui sont pas des objets religieux, il y a des carafes, il y a, je sais plus, un beurrier, je sais plus exactement ce que c'est comme objet, mais c'est vraiment des objets du quotidien, et sur un grand écran, il y a les numéros de lots, avec la description des lots, et une voix off qui décrit les lots. J'en ai des frissons, rien que d'en parler, ça rend tout ça extrêmement tangible. Donc évidemment, on parle des grandes œuvres d'art qui ont été spoliées, il y en a eu énormément, et des gens qui ont été obligés de fuir, et puis des gens qui sont morts en camp, mais voilà, on leur a tout prix. Voler. Mmh. Tout. C'est une exposition qu'il faut aller voir. C'est un très beau musée.
Pour passer à un sujet un tout petit peu plus gai, Caroline Loeb, quand
bah,
je vous vois...
C'est la vie. Hein.
Quand je vous écoute, je ne peux pas m'empêcher de penser à Arletty, moi. Vous l'avez rencontré, Arletty?
Oui, j'ai rencontré Arletty. Alors, je le raconte dans mon spectacle. Quand j'ai fait le tube, il y a mes deux premières attachées de presse de mon premier album qui s'appelait Bodo et la Traverse, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, qui étaient les attachées de presse de Bedos, de Zouk, enfin bon, elles ont eu des gens incroyables. Elles étaient amies avec Arletty. Et tout le monde me disait, ah, oh, ta voix, on dirait Arletty et tout. Et un jour, elles me disent, on va t'emmener déjeuner chez elle. Et donc, évidemment, elle était aveugle déjà depuis quelques années, donc elle a posé ses mains sur mon visage. Et une des nanas a dit, oui, puis Caroline, c'est marrant, elle a la bouche de travers. Et Arletty a dit, comme Maud Loti, c'est à la rade des boulevards, ça vous portera chance. Alors du coup, j'ai été voir qui était Maud Loti. Ouais. Et Maud Loti, ça a été une énorme star des années 20-30. Et voilà, j'ai déjeuné avec Arletty, c'était extraordinaire, parce qu'elle était pétillante, elle avait son rire enfantin, elle était marrante.
Ça vous inspire encore aujourd'hui, ça, je suppose, ce genre de rencontre, vraiment, c'est quelque chose qui marque une vie, surtout une vie d'artiste, dans un cheminement.
Ça m'inspire,
une femme importante de la culture française.
Hein, non plus. Non, ce qui m'inspire vraiment, c'est des Dorothy Parker, des Marlène Dietrich, des Joséphine Baker, Madonna m'a beaucoup inspirée. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes qui réinventent leur vie, qui ont une façon d'être au monde qui ressemble à personne d'autre. Mmh. Tout ça, ça fait du bien, bien sûr.
Dans ce spectacle Chiche, il y a quand même une belle rétrospective sur les années Palace, qui évidemment ont fasciné tellement de gens. J'ai beaucoup écrit aussi à ce sujet. Bon, les années 80, elles vous ont laissé quel souvenir à vous, Pierre-Olivier Briand?
Bien, en plus de celui de Caroline. Parce que du coup, je me suis replongé. Oui, moi je m'en souviens très bien. Alors c'est marrant parce que moi, les années 80, donc c'est mon enfance.
Vous avez quel âge?
46, donc d'accord. Je suis né en 73. Donc elle démarre.
Donc je sais exactement l'âge qu'il a quand ma chanson sort, donc il avait 16 ans.
Exactement. Alors elle démarre, les années 80, pour moi, elle démarre avec l'élection de François Mitterrand. Je me souviens du ligne à ligne, la réaction de mes parents.
Je dirais pas moi j'étais sur le ligne à ligne, un autre genre.
Ils ont réagi comment les parents? Ils étaient contents ou pas?
Disons qu'ils avaient connu des jours plus heureux.
Ils n'étaient pas super contents, ouais.
Et alors c'est des années que je redécouvre en réalité, parce que moi j'ai était naturellement plus porté vers les années 70, notamment en termes musicaux, etc. Et j'en avais une image, notamment musicalement, pas très bonne, l'esthétique, etc. Et j'ai redécouvert ça, notamment avec le film de Spielberg, Ready Player One,
oui,
qui
m'a
replongé dans mes débuts de l'informatique. Et donc, je suis pas mal dans l'esthétique des années 80 en ce moment.
Ben, j'ai un livre pour vous, figurez-vous. Parce que j'ai fait, sans me vanter, je crois que c'est le plus beau livre sur les années 80 qui est sorti il y a quelques années. Et j'ai des photos dedans de Mondino, Jean-Paul Goude, Pierre et Gilles. Et moi, ce que je défends effectivement comme idée sur les années 80, parce que souvent, on a une idée comme ça, un peu ringarde, de tube, comme ça, un peu à 2,50 francs, alors que c'est pas du tout ça.
Ouais. C'est... Il y en a eu aussi quand même.
Il y en a eu aussi. Ah bah oui.
Qui font encore mal aux oreilles.
Ah oui, les synthés pourris, les tchakapoum pourris, ça je te le confirme, il y en a eu. Mais c'est quand même, avec Jack Lang qui arrive au ministère de la Culture, c'est l'explosion de la mode avec des Jean-Paul Gaultier, des Mugler.
Et Kenzo.
Kenzo, c'est un petit peu avant.
Un petit peu plus tôt.
Voilà. C'est l'explosion de la BD Angoulême. C'est un cinéma extrêmement créatif. Enfin bon, c'est énormément de choses. C'est l'architecture. C'est Philippe Starck, et c'est des années d'une créativité, d'un bouillonnement, d'une fantaisie, d'une énergie incroyable.
Bon, là, mais c'est vrai. Caroline Loeb est dopée aux années 80, j'adore.
D'ailleurs, en 1980, il n'était même pas né. On va parler de jeunes gens qui sont aujourd'hui à la tête d'un petit empire.
Un empire de la pizza, vous me voyez peut-être venir, fondé par deux potes d'HEC.
Et c'est la stratégie de la semaine.
Sud Radio, c'est excellent, le talent. La stratégie de la semaine.
Ah, c'est une ascension comme on n'en voit pas souvent, un succès qui ne se dément pas depuis maintenant 4 ans.
C'est l'histoire de Big Mama, même si vous n'aimez ni les pâtes ni les pizzas, c'est une histoire franchement bluffante.
Tigrane Seydoux, Victor Luguerre se sont connus sur les bancs d'HEC, ils aimaient la bonne bouffe, jusqu'ici c'est bien, la bonne ambiance qui l'accompagne c'est encore mieux. Alors plutôt que de faire banquier ou traders comme tout le monde, ils se sont dit qu'ils allaient faire des crêpes. Et alors les crêpes ça n'a pas marché.
Et alors ils ont fait des pizzas et ça a cartonné. Stéphane Courbit les a épaulés en cuisine comme en salle, ils ont su très bien s'entourer. Et puis, et 1, et 2, et 3, et 4, dont la Félicita reste au XXL, implantée au sein de la station 3F, dans le 13e, plus stratégique, il n'y a pas.
Et on peut même maintenant, Judith, compter jusqu'à 8. L'ouverture du 8e restaurant est annoncée pour le 6 décembre prochain, on l'a appris ces derniers jours, rue de Paradis, dans le 10e arrondissement parisien.
Il se dit que le groupe Big Mama vaut aujourd'hui 800 millions d'euros.
Vive la pizza !
Ça fait énormément de pizza, ça.
Ah ouais. Vous imaginez, c'est fou ce qu'on peut faire avec un peu de farine, un peu de tomate et quelques capres. Hein.
Et du talent.
Après, il faut aimer les longues files d'attente.
Et la pizza aussi, quand même.
Oui, et la pizza aussi. Faudra penser à les inviter, ces deux-là, Olivier.
Ah, on va le faire. Nos invités aujourd'hui s'appellent Caroline Loeb et Pierre-Olivier Brial. Et on les retrouve tout de suite.
Sud Radio, c'est toujours excellent.
Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Merci d'avoir choisi Sud Radio.
C'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
C'est excellent, c'est l'histoire de leur passion.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence.
Et en parlant d'histoire, l'histoire aujourd'hui de Caroline Loeb à l'affiche du Théâtre de l'Archipel à Paris. Je pense qu'on l'aura jamais assez dit, Caroline, avec Chiche bien sûr, et Pierre-Olivier Brial, directeur général de Manutan. Alors justement, j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur Manutan, Manutan exactement.
Manutan, oui.
Manutan. Manutan en même temps, ça faisait Dreta, vous voyez,
yes.
Un peu comme ça.
Non,
mais décidément, vous êtes sur tous les fronts, parce que vous êtes également à l'origine, Pierre-Olivier Brial, d'un regroupement d'entreprises, on va dire de très grosse taille, on appelle ça des ETI.
Ouais. Alors les ETI, ça veut dire entreprises de taille intermédiaire.
Ouais.
Et aujourd'hui, on a un peu un angle mort dans la politique économique française, parce que les ETI sont la catégorie qui crée le plus d'emplois. Alors une ETI, c'est 250 à 5000 salariés, donc c'est assez large, entre 50 millions et 1,5 milliard. Les Allemands appellent ça le Mittelstand, c'est une obsession de l'Allemagne. Et la France a toujours eu une politique start-up assez clair, politique grand groupe, et un peu oublié ces entreprises, donc qui sont les premières créateurs d'emplois, 34% dans l'industrie et dans les territoires, 68%. Et on est beaucoup à penser que la crise des gilets jaunes, par exemple, est une des résultantes d'une certaine désindustrialisation, du manque de TI dans les territoires. Il y a un article de The Economist qui disait pourquoi la crise des gilets jaunes n'aurait pas eu lieu en Allemagne. L'Allemagne est obsédée par ce type d'entreprise. Et donc nous, il y a un mouvement national qui s'appelle le Méti, et puis des clubs. Donc moi, j'ai créé celui d'Île-de-France. On se fédère pour se donner une visibilité.
Vous avez 80 ETI dans votre club,
voilà,
c'est ça ?
On l'a créé avec la région Île-de-France. Ce qui est très important, c'est de dire aujourd'hui, ces entreprises-là, on ne peut pas les classer dans les grandes, donc on ne peut pas leur imposer totalement la même chose. Ce n'est pas des petites. Nous, on est 2300. Et il faut les considérer dans leur spécificité, parce qu'une partie importante de l'économie nationale et régionale se joue dans ces entreprises-là.
Pour bien comprendre, qu'est-ce que vous vous inspiriez du modèle allemand, vous évoquez le modèle allemand, qu'est-ce que ces entreprises de taille intermédiaire pourraient permettre, si elles étaient davantage implantées, reconnues, organisées, vous œuvrez en ce sens, qu'est-ce qu'elles auraient pu permettre en amont, justement, en quoi elles auraient pu éviter, justement,
ouais,
cette crise.
Qu'est-ce qu'on aurait fait pour éviter ça,
pour bien comprendre.
Alors, d'abord, je pense que, dans les raisons de cette crise, il y a quand même aujourd'hui ces écarts de... En tout cas, cette perception est une réalité des parties des gens qui se sentent en dehors de cette modèle à mondialisation.
Une histoire et de pouvoir d'achat.
Voilà. Et en fait, aujourd'hui, les ETI sont à 75% familiales, donc souvent avec une vision long terme et très équilibrée. Moi, j'appelle ça un capitalisme raisonné. Donc avec une vraie vision d'équilibrer, notamment le partage de la richesse. Après, ce sont les entreprises qui sont dans les territoires, c'est-à-dire qu'à 68%. Le problème aujourd'hui de l'économie, c'est qu'il y a une captation très forte dans les métropoles de la richesse. Beaucoup d'entreprises qui se créent, mais qui sont réservées à des personnes qui ont un certain niveau d'éducation. Mmh. Et il y a toute une partie de la population qui, aujourd'hui, n'a plus d'emploi dans des territoires. Et en fait, on s'est beaucoup intéressé aux banlieues, et à juste titre. On a un peu oublié cette partie-là de la France. Et quand vous regardez les années 2000, il y a une désindustrialisation massive de la France, avec un peu une illusion que tout se jouerait dans les services, dans les métropoles. Or, les ETI sont à 34% dans l'industrie et ce sont des entreprises vraiment de long terme. C'est-à-dire que vous avez parlé de Dreda. Si la famille Guichard aujourd'hui n'avait pas une vision de l'entreprise, on n'investit pas dans ce genre de bâtiments comme ça, de sites, etc. Et donc, on est un certain nombre de chefs d'entreprise à penser que ce capitalisme-là raisonné évitera qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que des écarts trop forts se créent et qu'on parte dans des solutions très simplistes d'un côté comme de l'autre, mais qui ne serviront peut-être pas l'ensemble de la communauté.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Caroline ?
Évidemment, il y a un énorme problème de chômage, ça c'est évident. Mais moi, ce qui me frappe personnellement, c'est à quel point le niveau dans les médias, pardon de le dire à la radio, mais autour de la culture baisse. Et à quel point aujourd'hui, dans les émissions soi-disant culturelles, parfois les émissions s'appellent showbiz. Non, la culture, c'est pas du showbiz, la culture, c'est des émotions, c'est pas des chiffres, c'est pas combien de disques a vendu machin, combien d'exemplaires a vendu bidule, on s'en tape de ça, c'est qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça touche.
Vous en avez vendu des millions, vous, quand même.
Ça m'intéresse pas du tout. Non, mais voilà, j'ai lu il y a quelques jours qu'à l'Express, ils allaient faire des coupes drastiques encore dans la culture, et la partie qui reste pour la culture dans tous les médias, que ce soit presse écrite ou télé, se rabougrit comme peau de chagrin. Et ça, je trouve ça très grave. Et je pense que moralement et intellectuellement et humainement, pour les gens, c'est terrible. Parce qu'on leur donne une idée de la culture qui n'est pas la bonne. Ça n'a aucun intérêt si un truc se vend ou se vend pas. Mmh. Tant mieux s'il se vend. Après, il y a beaucoup de merde qui se vendent aussi. Hein. Donc, ça, c'est pas une qualité en soi de quelque chose qui se
Bien
vend.
Sûr.
La qualité, c'est est-ce que ça vous touche ? Est-ce que ça vous parle à ce que vous avez de plus profond d'humanité ? Et je pense que c'est un problème qui s'ajoute au problème du manque de travail.
Mmh. Caroline.
La vulgarité qu'on voit à la télé, c'est terrible.
Quelle émission ? Non.
Caroline Loeb et Pierre-Olivier Brial, vous êtes d'accord avec l'idée de cet excellent, je suppose, qui consiste à dire qu'être excellent, finalement, ou dans l'excellence, quel que soit le métier, le secteur, le sujet, etc., ça veut juste dire bien faire les choses, y mettre son cœur autant que sa réflexion, pousser ses limites, presque une forme d'insatisfaction permanente. Est-ce que cette insatisfaction permanente est nécessaire pour l'un et l'autre ?
Je pense qu'un des problèmes, c'est que de plus en plus, on confond... Le succès, c'est une conséquence, quoi. C'est pas l'intention.
C'est pas une valeur.
C'est pas une valeur. Quand on développe une entreprise, oui, on a envie qu'elle grandisse, mais ce qui est important, c'est parce qu'on fait des bons produits, parce qu'on apporte quelque chose d'important. Et moi, par exemple, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, parce qu'il concilie... C'est Bruce Springsteen, alors ça peut... Mais pourquoi ? Parce qu'il concilie aujourd'hui une vraie intégrité de carrière, une remise en question et un succès important. Moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que l'artiste... On peut dépasser le fait qu'on peut apporter quelque chose qui apporte à beaucoup, parce que du coup, c'est quand même, on touche beaucoup de personnes, tout en restant sur de la qualité. Et en fait, l'excellence, c'est quand même ça.
Et c'est douter aussi, c'est laisser la part au doute, parce que si on doute pas, on progresse pas, on n'avance pas.
La remise en question.
La remise en question, il faut qu'elle soit absolument permanente. Et moi, je suis absolument d'accord avec vous que quel que soit le geste qu'on fait, que ça soit fabriquer des radiateurs, des bouteilles, enfin, peu importe.
Ou un spectacle.
Ou un spectacle, absolument. La beauté du geste, elle peut être dans n'importe quel geste. Et moi, je suis toujours très, très touchée par un très bon artisan. J'adore aller chez le cordonnier. J'adore le rapport qu'ils ont...
À la matière.
À la matière, à l'objet. Je trouve ça me touche beaucoup. J'adore mon fromager. Voilà. Il y a n'importe quelle chose qu'on peut faire dans la vie, peut-être faite avec intelligence, avec une âme. Il y a un gars qui m'a fait des travaux dans une petite maison dans l'Oise. Le type, il aime la brique, il aime le bois, il aime faire les choses avec âme, ça change tout.
C'est
ça
excellent
change absolument
tout ça,
tout.
Olivier. Hein.
J'adore entendre ça. Il y a une chose qui est très frappante en vous écoutant l'un et l'autre, et de ce que vous venez d'univers très différents, c'est que vous avez su très tôt, alors mu peut-être par cette énergie, cette envie de faire des choses, mais vous diversifiez. Hein. C'est vrai chez Manutan, c'est vrai évidemment chez Caroline Loeb. Ça aussi, c'est un moteur.
Bah, la curiosité.
Bouger ses lignes tout le temps.
Pardon ?
Sortir du cadre.
Savoir bouger ses lignes.
Ben, savoir être curieux tout le temps, vouloir. Moi, je me lasse jamais de découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux acteurs. Je passe mon temps au théâtre, des nouveaux textes.
On a besoin de se nourrir. Du cadre.
Sortir du cadre. Oui, bah, déjà, moi, je crois beaucoup aux passerelles entre les mondes. C'est-à-dire que je crois beaucoup, par exemple, qu'un chef d'entreprise qui se cultive, on sait maintenant qu'une partie très importante des idées viennent de la partie inconsciente du cerveau. Et moi, j'ai jamais voulu opposer, je fais beaucoup de musique.
J'ai comme jamais quoi, voulu poser,
je fais du rock, je compose, enfin pendant
mais vous jouez de la guitare ouais,
ah, j'adore.
Elle va vous débaucher. Hein. Attention, elle est redoutable. Hein.
Chez Manutan, on est trois à la direction générale. On a chacun une passion pour les arts. Et moi, je crois beaucoup que l'un inspire l'autre. Ce que j'ai à apprendre dans l'entreprise, ça m'a aussi permis d'avoir pas mal de rigueur. Et donc, plutôt que d'opposer, j'aime bien réunir. Et je suis sûr qu'une bonne idée de produit peut venir d'une belle expo. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de choses qui se créent.
Mais c'est surtout que les idées, on les a juste tout le temps.
Tout le temps.
Quand on a des idées, on en a tout le temps. Mais un des textes de l'album qui est dans le spectacle, je l'ai eu, j'étais dans mon bain, j'étais au téléphone avec Pierre Grillet, j'ai sorti une vanne, et puis c'est devenu une chanson. Voilà, c'est tout le temps.
C'est quoi la vanne ? À quel moment du bain ?
Non, mais mais c'est vrai. Le cerveau, c'est pas une machine qu'on arrête quand on dort. Moi, je dis, mais c'est vrai. Hein, je travaille en dormant. C'est-à-dire que je peux me coucher avec une question, je me réveille, j'ai la solution.
Que les enfants grandissent en dormant, donc on doit travailler en dormant.
C'est l'anecdote de Thierry Ardisson, là, ce slogan publicitaire Tintin, il y en a pas deux. Elle est venue dans son bain aussi.
Et Paul McCartney a composé Yesterday au matin, le réveil. Non, en se réveillant, et il est allé voir. D'ailleurs, ça s'appelait Scramble Eggs, yeux brouillés. Il est allé voir tout le monde en disant, est-ce que vous connaissez cet air? On dit non. Et Keith Richards s'est levé la nuit avec le riff de Satisfaction.
Ah oui, ça je la connais, c'est génial.
J'adore l'idée.
C'est
et avec une grosse gueule de bois aussi, à mon avis.
Avec Keith Richards en même temps, il avait des bonnes vitamines.
Il s'est levé, il l'a enregistré, il est allé se recoucher. Donc.
Caroline, Pierre-Olivier, est-ce qu'il vous arrive de sortir? Est-ce que vous appartenez
tout
encore un peu? Oui, Caroline, oui. Pierre-Olivier?
Moi, je suis un grand, grand lecteur.
Alors, c'est tant mieux, c'est excellent, et c'est le moment où on sort.
Et voilà notre agenda culture.
Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture.
Caroline Loeb. Alors, on n'a pas trois heures en même temps, hein, Caroline.
D'abord, Olivier, je dois dire que vous aviez raison. Mon grand-père a été dessiné par Artaud, ça m'est revenu, bien sûr, je sais même qui.
Mais je sais tout sur
vous. Je sais même qui a acheté le dessin.
Je lis en vous comme dans un livre ouvert.
Ouais. Bon, alors, deux coups de cœur importants. Évidemment, l'exposition Toulouse-Lautrec. Évidemment, Lautrec, j'ai vu son exposition il y a 30 ans, c'est le génie.
Et tout le monde doit y aller,
c'est
les enfants,
palais.
Les moins grands.
C'est extraordinaire, et tout ça, de vitalité, de patate, d'intelligence. Non mais c'est vrai, Toulouse-Lautrec, c'est un génie. Et puis c'est Yvette Guilbert, qui est moi personnellement ma première chanteuse dont je suis tombée radingue.
Qu'est-ce qu'elle chantait, Yvette Guilbert?
Elle chantait « Un fiacral est trottinant, caca, il y a un plat, et j'en ai marre à Arthur, est une femme, bon, etc. » Donc, Toulouse-Lautrec, absolument... sans faute. Et comme vous êtes national, j'ai découvert un spectacle il n'y a pas longtemps et je sais qu'ils sont en tournée. C'est un metteur en scène qui s'appelle, comment il s'appelle ? Emmanuel Mérieux. Et il a deux spectacles, Les Naufragés et La fin de l'homme rouge. Les Naufragés, c'est bouleversant. C'est un type qui se met dans la peau d'un clochard et ça parle de l'intérieur. C'est extrêmement fort, c'est bouleversant d'humanité. C'est magnifique, c'est un grand metteur en scène.
Qu'est-ce qu'elle en parle bien ?
Pierre-Olivier Brial.
Pierre-Olivier Brial, oui.
Alors moi, deux livres. Une BD qui s'appelle In Waves. Je serais incapable de vous dire le nom de l'auteur parce que c'est un nom linguiste ou quelque chose comme ça, mais qui est magnifique autour de la rédemption par le surf.
D'accord.
C'est un très très beau livre.
Après la guitare,
vous m'étonnez. Vous m'épatez. Aujourd'hui, vous m'épatez.
Et l'autre livre, c'est La part du fils de Jean-Luc Coatlem, je crois, qui est nominé pour le Goncourt. J'espère qu'il l'aura. Parce que cette année, je me suis un peu mis en tête d'essayer de lire les livres nominés pour voir si je serais d'accord avec le jury. Mais celui-là m'a beaucoup aimé. Donc, c'est un homme qui part à la recherche de l'histoire de son grand-père.
Il vous a beaucoup aimé.
Il m'a beaucoup aimé.
C'est une belle rencontre.
C'est vrai qu'il m'a beaucoup aimé, ce livre.
Caroline, Pierre-Olivier Brial, vous recevoir a été un plaisir. Un grand merci à vous d'être passé par les studios de Sud Radio. C'est passé bien vite aujourd'hui. Hein.
Autres invités, autre histoire d'excellence et de création. C'est excellent. Reviens la semaine prochaine, Olivier.
Même heure, même fréquence. D'ici là, plein de belles choses à vous qui nous écoutez aussi, bien sûr. Excellente et passionnante, et merci surtout de rester fidèle à Sud Radio.
C'était excellent.
Je confirme.